Est-ce que vous avez suivi un traitement contre l'épilepsie? Si oui, pendant combien de temps?
La durée du traitement, c'était 16 ans. Auparavant, quand j'ai eu ça à l'âge de 11 ans, au Rwanda, on venait à peine du génocide. Il n'y avait pas assez de spécialistes dans la neurologie et il y avait toujours des docteurs qui me donnaient des médicaments qui n'allaient pas avec la maladie. Donc, j'ai fait presque 6 ans sans avoir une bonne prescription. Mais par contre, quand j'ai eu des docteurs neurologues anglais qui ont examiné mes lobes, après avoir fait l'examination, ce qu'on appelle l'encéphalogramme, et puis ce qu'on appelle le MRI, ils ont trouvé que c'est la lobe inférieure à gauche qui avait un problème de lésion. Et ces lésions étaient créées par une infection. Et puis, en ça, ce qu'ils ont fait, ils m'ont d'abord appris quel est ce problème. Et en ce temps, j'avais à 6 crises par semaine. Quand ils m'ont montré... Tu dois prendre comme ça les médicaments et si par exemple ta crise augmente, tu augmentes seul le médicament, tu n'as pas besoin de venir nous voir. Nous voulons que tu sois responsable de toi seul. C'est en ça que j'ai appris comment faire la dégradation des médicaments, comment augmenter ça, quel genre de vitamines je dois prendre pour équilibrer mes nutriments, quel genre de sport je peux faire pour ne pas être obèse par exemple et éviter toutes les autres maladies par exemple qui peuvent être aussi néfastes à l'épilepsie. J'avais consommé le sodium valporate qu'on appelle le Depakin. Après, j'ai consommé le Tegretol, le gabapentin. Après le gabapentin, je n'avais plus eu de crise. C'est comme ça que maintenant, je suis une personne indépendante et j'aide les autres parce que je sais que ton parcours dépend aussi de l'entretien que le docteur a pris au premier temps.
16 ans de traitement, c'est un peu dur et c'est un peu lent. Chantal, pourquoi votre traitement a-t-il pris autant de temps?
Par exemple, au premier moment, quand j'avais entre 11 ans et 18 ans, je n'avais pas un bon docteur. C'est-à-dire que quand je faisais des crises, c'était des hyperactivités dans mon cerveau et ça endommageait encore mes lésions. C'est pour ça que mon traitement a pris longtemps. Mais quand j'ai recouru avec des autres patients en Angleterre, j'ai trouvé que beaucoup, après 8 ans, ils n'avaient plus de crise, s'ils prenaient bien leurs médicaments. Après 5 ans, ils n'avaient plus de crise. Et c'est à ça que je me suis référée à l'Afrique pour dire que les Africains doivent prendre soin d'eux. La première des choses, c'est trouver les secours à l'hôpital et trouver un bon docteur qui est bien qualifié pour te donner une bonne prescription.
À l'époque où les médecins vous donnaient des médicaments, mais qui ne marchaient pas, est-ce que les médecins savaient au moins que vous aviez l'épilepsie ou bien ils confondaient la maladie à une autre?
Ils confondaient la maladie parce qu'il y avait l'absence, ils confondaient ça à l'hallucination. Ils ne savaient pas que c'était l'épilepsie, l'absence.
Docteur Kazadi, est-ce que l'épilepsie peut être confondue à d'autres maladies?
L'épilepsie peut être confondue à d'autres pathologies en sachant qu'il y a des crises que nous appelons les crises afébriles et les crises fébriles. Dans les crises afébriles, il n'y a pas que l'épilepsie. On peut avoir quelqu'un qui a l'hypoglycémie, il peut faire des crises semblables à l'épilepsie. En dehors de ça, un trouble ionique, la personne peut faire des convulsions comme l'épilepsie. On peut parler également des coups de chaleur. La personne commence à convulser. Parlons des crises fébriles. Les crises fébriles, comme sur l'enfant, parlons de la ménésie. L'enfant perçoit des convulsions semblables aux crises d'épilepsie. Comme les encéphalopathies, vous pouvez confondre ça facilement avec l'épilepsie. Et ce que Chantal venait de dire, elle a totalement raison. Parce que les médicaments que nous prenons contre l'épilepsie, il faut savoir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous faisons les électroencéphalogrammes, les EEG. C'est pour nous donner des types de crises, parce que tous les médicaments qu'on a ne sont pas les mêmes pour tous les types de crises d'épilepsie. C'est là qu'on a, bien évidemment, le mécanisme d'action des médicaments. Il y a des médicaments qui doivent renforcer l'activité inhibitrice des GABA qui sont les neurotransmetteurs inhibiteurs. Et nous avons aussi le mécanisme où on doit diminuer l'activité excitatrice des neurones. Et nous avons les médicaments qui sont les effets stabilisants qui doivent stabiliser la membrane. On sait quand est-ce qu'il faut aller dans la phytothérapie, trithérapie, monothérapie. Tout ça, c'est en fonction des crises. Si vous tapez à côté, la personne sera là en train de prendre les médicaments, mais ces crises vont démarrer.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Ezrin Daringar, qui nous écrit depuis le Tchad, aimerait savoir si les personnes qui souffrent de l'hypertension ou de l'hypotension ont plus de prédisposition à avoir cette maladie.
Il n'y a pas encore un rapport étroit entre l'hypotension et l'épilepsie à PQGH, mais seulement dans l'hypertension, avec par exemple une hypertension qui peut aller entraîner un accident vasculo-cérébral, que nous appelons couramment l'AVC, avec un hématome qui peut se créer au niveau cérébral, qui peut être intra-extra aussi viral, qui comprime le cerveau. Il peut entraîner des lésions qui sont sévères et qui puissent aussi aboutir à l'épilepsie. Donc, ce qui peut conduire à cela, dans le contexte où cette hypertension conduit par exemple à l'AVC, et l'AVC par ces mécanismes-là, avec un saignement qui peut évidemment un hématome, connaissant que les contenus cérébraux, ça veut dire le cerveau et la voie crânienne, les deux répondent à ce que nous appelons le principe d'équilibre moraux. Un saignement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit s'ajouter, et ces saignements, le sang, comme ne sait pas se prioriser, il peut se coaguler, former ce qu'on appelle l'hématome. Cet hématome peut comprimer le cerveau, entraîner des lésions au niveau cérébral et aussi aboutir à ce que nous appelons l'épilepsie.
Chantal, est-ce que quand on souffre de l'épilepsie, on peut avoir une vie normale?
On peut avoir des mal parce que la personne est rejetée socialement et la personne vit dans la solidarité. Quand une personne tombe malade, je demande la question que ceux qui sont autour de moi pensent comment je vis, comment je respire, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Ils se posent beaucoup de questions parce qu'ils croient que quand tu tombes, tu perds la respiration à tout moment. C'est comme si tu traverses une zone de guerre, mais tu ne meurs pas aujourd'hui, mais de demain, tu penses que tu vas mourir. C'est en ça que tu vois beaucoup de gens qui souffrent de l'épilepsie vivent dans l'isolement parce que les autres ne comprennent pas leur stress. En étant épileptique, beaucoup de gens développent ce qu'on appelle une fraction d'avoir peur dans la vie. Il n'a plus de self-esteem. Il sait que si je sors de la maison, je ne sais pas si je vais retourner. Si je vais au travail, je ne sais pas si je vais retourner. Si j'ai des enfants, je ne sais pas si je vais les élever, je serai leur père pour eux. Et cela développe quoi? Ce qu'on appelle la peur, qu'on appelle en anglais anxiety. Anxiety disorder, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr et certain de toi, de demain, ce que tu vas être. Tu peux être en route, tu tombes par exemple sur quelque chose, tu fais un accident, tu te casses le pied, tout le monde va te demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu ne diras pas que c'est à cause de la crise. Tu vas dire que c'est à cause, par exemple, de ça et ça. Tu ne vas pas bien t'exprimer à travers ceux qui te connaissent. C'est pour ça que moi, je dis que la manière dont ces malades vivent, ils vivent avec un grand, grand tabou et ils ne peuvent pas parler de ça ouvertement. En Afrique, ils doivent développer la transit psychologique. Cette transit psychologique, quand la personne accepte la maladie, commence à prendre le médicament, il doit aller chez un psychologue. Le psychologue doit aussi savoir l'environnement.
Quelles sont les conséquences qu'une telle anxiété peut avoir sur la vie du malade?
La personne développe cette anxiété qui ne la permet pas d'évoluer dans la société. Et aussi la réjection sociale dans les familles, par exemple. On dit toujours que c'est une personne qui ne sera pas productive. Au lieu de payer l'université à cet enfant, il peut rester à la maison et garder les petits frères ou bien aller au marché vendre des tomates. Donc ces enfants-là n'ont pas le futur en Afrique. C'est à cause de l'ignorance et les mythes de l'Afrique. Le mythe de l'Afrique parle que l'épilepsie, c'est une possession démoniaque. Et c'est ça qui défavorise leur vie sociale. Et la plupart sont rejetés à ne pas être mariés. Une dame peut être mariée et cache cette maladie à son mari. Arrivée le soir au lit, elle développe la crise. Le matin, le mari dit « Oh, je te quitte, tu es possédée par un démon. »
Est-ce que des patients vous ont déjà confié les angoisses qu'ils ont à cause de leur maladie?
Une fille qui avait 19 ans, qui allait dehors avec son copain, a eu la crise, le copain a fui, il l'a laissé là-bas, on m'a appelé, j'ai pris la fille, je l'ai ramenée à la maison. Il y a la famille de 3 enfants qui souffraient de l'épilepsie, mais ils les cachaient. Mais quand ils m'ont vu à la télé en train de parler sur ma maladie, mes espoirs, tout ça, mes parents m'ont appelé, m'ont dit « Oh, ça c'est bien, tu dois faire de même pour nous, donc on a espoir pour nos enfants. » Donc ce sont des choses qui sont toujours là, mais il faut toujours des entretiens psychologiques et puis faire des plaidoyers aux parents aussi, savoir comment vivre avec ces enfants. Ces enfants aussi, ils consomment des drogues, ces gabapentines, ces épilines, ce sont des drogues très fortes qui demandent aussi que les parents soient patients vers leurs enfants. La fatigue chronique que l'enfant a ne peut pas travailler de même qu'un enfant normal.
Merci. Docteur Chazadi, vous aussi, vous avez des exemples des patients qui vous ont confié leurs angoisses?
Les patients sont vraiment déprimés. Il y a certains de nos patients qui développent l'agressivité. Il y a donc plusieurs manifestations liées à cet état. Et quand vous demandez, ils se posent la question, pourquoi moi? C'est la question souvent dans les consultations que nous avons. Et ils disent, pourquoi vous? Oui, effectivement, Nani, ce sont des choses que nous vivons au quotidien. C'est comme une dame qui s'est vue être étudiée par son mari, sous prétexte que c'est elle à la balle, c'est la maladie de l'enfant. C'est un problème vraiment qui touche toute la famille à soi. Ce n'est même pas quelque chose de patient tellement, qui souffre de l'épilepsie, mais vous trouverez que des types de frustrations touchent l'entièreté de la famille. Il y a des divorces pour ça. Chacun jette la balle dans le camp de l'autre. C'est toi la balle. Surtout que c'est une maladie répétue de stigmatisation et surtout pour le patient eux-mêmes. Ils ont du mal. Ils sont frustrés du fait que quand ils ont des crises, ce n'est pas une vie facile. Une crise en public.
Docteur, quel impact de telles situations peuvent-elles avoir sur la vie des malades?
Pas plus tard que le dimanche dernier, j'étais à l'église, j'ai rentré et on me suit derrière par le protocole. Docteur, docteur, venez voir, il y a une fille là de 21 ans qui vient de tomber. Quand je suis arrivé, ce sont des crises d'épilepsie alors qu'elle est monitrice et qui encadre les autres à l'église. Vous vous rendez compte que une frustration, elle s'est dit, voilà, moi qui enseigne, mais comment je peux tomber devant les enfants? Des fois, ça énerve, ça crée le trouble de l'humeur et tout ça. Et c'est là que nous n'avons même pas la suite des pédocrises qui arrivent. Ça veut dire que quelqu'un qui a eu des épilepsies peut aussi, à la suite, faire que nous avons des pédocrises qui sont tout à fait des entités psychiatriques. Quelqu'un peut tomber dans la dépression, par exemple, parce que chaque fois, il a des frustrations, chaque fois, il ne sait pas vivre la vie comme les autres. Donc, ce sont les choses que nous vivons au quotidien. C'est là que nous usons de la psychothérapie pour soutenir ces patients. Parce que ces malades souffrent de ça, c'est toute une vie. Alors, il faut de la psychothérapie pour dire c'est une maladie. Avec les traitements, ça va aller. Donc, nous les réconfortons et c'est exactement ça que nous faisons. Et ça porte des résultats escomptés jusque-là.
Merci. Chantal, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit que certaines familles évitent d'envoyer ses enfants à l'école parce que c'est une perte d'argent. Est-ce que dans votre famille, vous avez rencontré ce cas? Est-ce qu'on a refusé de vous envoyer à l'école?
Non, non, non. Par contre, dans ma famille, j'ai été bien supportée par mon père et il avait toujours l'espoir que je vais m'en sortir. Et ma mère aussi, c'était une femme vraiment très bien, qui prenait en charge et qui ne cachait pas que j'avais la maladie et me montrait que quand tu rencontres quelqu'un, il faut toujours dire que je vais bien et je serai guérie dans les mains de Dieu. C'était une thérapie très forte que même ce que le docteur m'a donné. Cela m'a donné le courage de poursuivre la thérapie et de guérir. Mais par contre, arrivant à l'école, quand j'étais en sixième secondaire, c'est quand j'ai eu la réjection et quand je faisais mon examen national, j'avais eu trois crises dans la semaine. Ils m'ont pris tous les papiers, ils m'ont dit « tu ne fais pas l'examen, tu dois refaire l'année ». Et cela m'a perturbée. Et c'est en ça que j'ai senti que la société externe, donc ceux qui ne sont pas de ma famille, me rejettent, c'était pas vraiment bien.
C'était pas facile à vivre.
Quand tu vois tes amis arriver à l'université, toi tu n'arrives pas. Et c'est à ça que mes parents ont dit, OK, comme cette société ne prend pas charge de ses enfants, OK, nous amenons notre enfant à l'étranger et elle va continuer ses études. C'est comme ça que j'étais partie en Angleterre et finir mes études.
Ce que vous dites rejoint un peu le commentaire d'Alphonse Mouaki. Il écrit que quand on souffre de l'épilepsie, on devient un problème social à la famille. L'épilepsie ruine le budget familial et le malade fait l'objet d'une surveillance accrue des membres de la famille. Donc ça résume un peu ce que certaines personnes vivent dans leur famille. On les considère comme étant un problème social.
Oui, oui, parce que le problème social, c'est quoi? Par exemple, la dépakine en Afrique, ça coûte $20 pour le mois, par exemple, pour un enfant qui a l'épilepsie, et toutes les familles n'ont pas cet argent. Quand ils voient qu'ils dépensent $20 pour cette personne ne guérit pas, ils disent, ok, tu nous prends trop d'argent, tu n'as qu'à mourir, des histoires comme ça. Il y a vraiment beaucoup de blasphèmes sur cette personne jusqu'au point où la personne accepte de se suicider et quitter sa famille.
C'est bien dommage.
C'est pour ça que nous devons chercher des fonds tangibles pour aider ces enfants à trouver une routine dans la société, à être reconnus aussi comme les gens qui sont dans ce qu'on appelle les disabilities, c'est-à-dire les handicaps.
Chantal, est-ce que des lois existent pour protéger les personnes qui souffrent de l'épilepsie?
La loi a été passée par les Nations Unies à partir de 2006, ce qu'on appelle la Convention des droits des personnes qui ont un handicap. Ils ont mis l'autisme, ils ont mis l'épilepsie, ils ont mis beaucoup de maladies psychoschizophréniques, mais beaucoup de sociétés africaines ne considèrent pas ça. Par exemple, si tu vois dans certains des pays, il y a l'évolution par exemple dans ces points, mais dans la loi, la législation ne considère pas ça.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOAAfrique.
Est-ce que l'épilepsie laisse des séquelles à vie, même après la guérison?
Oui, par exemple, la vision. Moi, j'ai un problème de vision dû aux médicaments que j'ai pris toutes ces années. Je change mes lunettes chaque année. Je trouve vraiment qu'il me faut l'opération pour ça. Il y a des conséquences à ça, par exemple, sur beaucoup de femmes qui consomment les médicaments. Là, les hormones peuvent changer dans le corps de cette femme et les œstrogènes peuvent être peu. Tu trouves qu'il y a un problème. Et je conseille toujours aux femmes qui prennent la dépakine de ne pas prendre la dépakine quand elles sont enceintes. C'est un médicament qui peut affecter le fœtus et tu peux avoir un enfant qui a le syndrome et qui a aussi l'autisme.
Kaka John Mueshimiwa veut savoir ce qu'il faut pour prévenir cette maladie.
Pour prévenir cette maladie, il faut avoir l'hygiène, même dans vos maisons, faire en sorte que vos enfants boivent de l'eau très propre, ne pas jouer dans la pluie. Si vous avez des fermes comme là où il y a les cochons, les toits, vous devez faire en sorte que vous nettoyez bien les fermes, les toilettes que vous utilisez soient très propres pour éviter les ténias, des histoires comme les maladies tropicales qui créent enfin la méningite. Si quelqu'un a la malaria, la typhoïde, il doit se soigner à temps pour ne pas avoir des lésions cérébrales. Les gens doivent aussi savoir que pendant l'accouchement ou bien avant l'accouchement, ils doivent avoir un suivi bien chez le docteur. Par exemple, si une femme arrive à 3 mois, elle doit regarder les protéines, les nutriments qu'elle prend et puis qu'elle doit savoir aussi si son bébé est en bonne santé avant de mettre au monde. Et la méthodologie d'accoucher ses enfants doit être un peu avancée dans les régions d'Afrique, surtout dans les villages. Nous devons avoir aussi des matériaux bien pour l'accouchement. Nous devons faire aussi des trainings pour, c'est là qu'on appelle les femmes sages, les midwives, pour bien délivrer les bébés.
Désiring Dartingarira, qui nous écrit depuis le Tchad, en fait, il partage un témoignage parce qu'il a un proche qui souffre de l'épilepsie. Voici ce qu'il écrit. J'ai quelqu'un qui souffre d'une crise, souvent lorsqu'il s'énerve subitement. On constate déjà une manifestation par des convulsions et par la suite, il perd connaissance. Et au début, il arrive qu'on l'injecte avec du Valium et il dort une quarantaine de minutes avant de se rétablir. Est-ce que cela signifie que être en colère peut aussi précipiter les crises d'épilepsie chez un malade?
Ça, ça montre qu'il prend le Valium et le Valium, il a aussi d'autres idiopathiques, c'est-à-dire il a d'autres maladies comme la schizophrénie des dents. Ça, ce n'est pas seulement l'épilepsie, c'est l'épilepsie avec la schizophrénie. C'est pour ça qu'il est injecté au Valium, il devient très vulnérable envers cela dont il vit avec. Mais en ce qui concerne les malades qui ont l'épilepsie seulement, ils n'ont pas ces séquelles-là de s'énerver jusqu'au point où on doit mettre le Valium. Non. C'est vrai que la conséquence des médicaments comme par exemple le sodium valproate ou la dépakine, la tigretone, il y a la levetiracétam, il y a carrément des changements d'humeur. La personne peut rester, il ne veut pas parler, il ne veut pas causer avec quelqu'un, mais il est là, il travaille. Mais ce sont les conséquences des médicaments qu'il prend. Mais ce n'est pas avec la violence. Avec ceux-là qui ont la violence, c'est ceux-là qui ont par exemple l'épilepsie et d'autres maladies mentales comme la schizophrénie, l'hallucination et aussi d'autres problèmes.
Quel conseil pouvez-vous donner à toutes les personnes qui vous écoutent en ce moment-ci et qui souffrent de l'épilepsie en Afrique?
Les personnes qui souffrent de l'épilepsie en Afrique doivent entrer dans ce qu'on appelle le network de la jeunesse, c'est-à-dire dans la jeunesse africaine. La jeunesse africaine doit reconnaître l'épilepsie parmi les maladies chroniques et les maladies qui créent aussi ce qu'on appelle disability, c'est-à-dire l'handicap. Ils doivent aussi réintégrer la jeunesse africaine pour changer les mythes de l'Afrique en rapport avec ça. C'est pour ça que nous, quand nous faisons des prédoyers, nous intéressons souvent les jeunes à venir parler devant les autres jeunes de ce qu'ils souffrent et comment ils doivent changer la législation sociale.
Docteur, un conseil aux personnes malades d'épilepsie et même à toutes les personnes qui vous suivent en ce moment?
L'épilepsie est traitable. Nous sollicitons donc une collaboration étroite entre personnel de santé et aussi les personnes souffrant avec épilepsie, que lorsque les prescriptions sont élaborées et que la prise soit respectée, elles verront leur vie changer. L'épilepsie, ce n'est pas une maladie contagieuse. L'épilepsie peut toucher tout le monde, du premier dirigeant jusqu'au plus petit, donc tout le monde. Personne n'est exclu ou épargné de la maladie. Quant aux dirigeants, nous les supplions d'organiser des politiques pour soutenir ces patients. Pourquoi pas voter des lois qui sont en faveur des patients souffrant avec épilepsie, réduire la stigmatisation et la discrimination sociale, parce que ce sont les personnes contre les personnes, et surtout, c'est une maladie qui peut toucher tout le monde. Donc, nous avons intérêt à soutenir ces patients. Nous leur disons d'accepter cet état et qu'il y a une solution pour eux, c'est le traitement. Dès qu'ils reçoivent un traitement, une discipline, un traitement bien conduit, ils peuvent retrouver leur état et vivre normalement comme tout le monde.
Est-ce que vous avez des moyens de prévention à suggérer à ceux qui nous écoutent?
Les moyens de prévention, nous faisons une référence aux facteurs de risque pouvant conduire à la maladie.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Chantal, un mot à toutes les personnes qui doivent vivre avec l'épilepsie, que ce soit les malades ou les membres de leur famille, voire les amis.
Prenez l'épilepsie comme une maladie non contagieuse. C'est une maladie qui est traitable. Chaque famille en Afrique, je comprends bien les difficultés, mais j'incite la jeunesse africaine de chercher à faire des plaidoyers pour trouver des fonds. Et nous devons aussi expliquer que l'Union africaine, l'affaire sociale de l'Union africaine doit être responsable de ça parce que c'est une maladie qui régénère de génération en génération. Et dans tout le continent, il doit y avoir la loi de protection pour ces enfants afin qu'ils ne soient pas exclus dans la société, dans l'éducation, dans l'employement, qu'ils retrouvent la vie. Et je crois que ils ont une protection politique dans la législation sociale. Ils peuvent avoir aussi une protection économique. C'est ça qui peut enlever la culture et les appeler comme des gens qui sont possédés par des démons.
Merci beaucoup Chantal pour votre disponibilité.
Je vous remercie.
Merci à vous aussi, docteur Kadadi. C'était l'entretien que nous avions eu avec le neurologue Prince Kadadi, qui est aussi fondateur d'ASLEC, une association pour la lutte contre la stigmatisation de l'épilepsie en République démocratique du Congo, et Madame Chantal Kanyabutembo, directrice exécutive de GECO Rwanda à Kigali. C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons discuté avec le docteur Prince Kadadi, neurologue en République démocratique du Congo et fondateur d'ASLEC, une association pour la lutte contre la stigmatisation de l'épilepsie. Madame Chantal Kanyabutembo, directrice exécutive de GECO Rwanda Kigali, a également pris part à la discussion. Nos deux experts ont expliqué que l'épilepsie est bel et bien une maladie traitable. Ils ont également évoqué les moyens de prévention de la maladie. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nani de Salani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.